J'ai prié. Abba Père bien-aimé, merci, nous t'adorons, nous te rendons grâce que le message que je donne cet après-midi soit conduit par ton esprit, Seigneur, et que cela ne vienne pas seulement de moi, Seigneur, que cet enseignement puisse vraiment nous faire grandir tous ensemble, Seigneur, vraiment à savoir comment t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, est-ce que je peux avoir... Avec la technique, son technique. Voilà. Alors, est-ce que vous étiez, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous étiez fan d'un chanteur ou d'un, je sais pas, vous étiez à un concert de Johnny ou de Céline Dion ou j'en sais rien, mais non, vous n'êtes pas fan. En tout cas, dans ces concerts, vous voyez que les fans, ils sont en train de crier, exciter, tout ça. Mais le Seigneur nous enseigne aujourd'hui comment une véritable adoration, ils attendent de nous. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui partager avec vous. Vous voyez, la Samaritaine avec Jésus, il y a un autre, voilà. Alors, la rencontre entre le Seigneur et la Samaritaine. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus décide de passer de... retourner de Judée, il est en Judée et il retourne en Galilée. Vous connaissez un peu la géographie? Supposons la Judée c'est dans le sud et entre la Judée et la Galilée et dans le nord, entre la Judée et la Galilée, il y a la Samarie. La Samarie est entre les deux. Donc pour passer de la Judée à la Samarie, le chemin le plus court, c'est de traverser Samarie. Oui, passer. Mais, comme les Juifs n'aiment pas les Samaritains, ils les détestent. Donc, ils préfèrent faire un détour soit par la mer, soit par ce côté-là. Mais le Seigneur, il a choisi exprès de passer par la Samarie. Dans cette ville qui s'appelle Sichar. Il a choisi exprès dans cette ville, à midi, il est assis, nous avons lu, il est assis près d'un puits, et parce que les disciples sont partis chercher, acheter la nourriture pour manger. Et qui c'est qui arrive? La femme samaritaine avec sa cruche pour puiser de l'eau. Normalement, les femmes viennent puiser de l'eau, pas à cette heure-ci, mais tôt le matin, avant qu'il fasse soleil. Même mon mari qui court le matin, il court à 6h30 ou à 7h du matin. Il va pas courir à midi. C'est ce que faisaient les femmes de cette époque, pour éviter la grande chaleur. Mais celle-ci est spéciale, particulière. Nous allons voir par la suite pourquoi elle a choisi cette heure pour venir puiser de l'eau. Voilà, elle arrive, et là, le Seigneur, lui, adresse la parole. Puisqu'elle est venue chercher puiser de l'eau, le Seigneur lui a demandé, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Alors, là, il faut vous revenir un peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'est rare que les hommes s'adressent à la femme. Et encore, un juif s'adresse à une femme samaritaine. D'accord? C'est pas dans le contexte aujourd'hui. Il faut revenir dans le contexte de l'époque. Revenez dans 2000 ans avant là. Voilà. Donc, c'est pour ça... La femme, elle dit, quoi, comment, t'es un juif? Et tu me donnes à boire, moi, à moi, qui suis samaritaine? Vous voyez, elle est surprise. Je pense qu'elle est agréablement surprise. Voilà. Parce que ici, c'est entre parenthèses, voilà, les Juifs, on est, en effet, éviter toute relation avec les Samaritains. Alors, pourquoi? Parce que, vous vous souvenez un peu, après Salomon, l'Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume du sud, il n'y a que deux, c'est Juda, et le royaume du nord, c'est Israël. Et Israël, Samarie, c'est Israël du nord. Et en 1672 avant Jésus-Christ, comme le peuple d'Israël du nord ont violé l'alliance avec Dieu et rejeté Dieu, bah, Dieu a permis aux Assyriens de détruire ce royaume et ils sont tous déportés en Assyrie. Et c'est actuellement c'est Mossoul et les alentours, c'est le nord de l'Irak actuel. Donc en fait le peuple juif sont partis. Et à la place du peuple juif, les Assyriens ont fait venir les Assyriens dans la Samarie. Et comme ils ne savaient pas adorer Dieu, Dieu a fait venir des animaux sauvages pour les dévorer. Ils ont eu peur, ils ont reporté au roi assyrien. Les rois ont renvoyé des Lévites, quelques Juifs, pour leur enseigner comment adorer Dieu. Donc les Samaritains sont la descendance entre les colons juifs et les Assyriens. Ils sont pas juifs purs. C'est pour ça, pour cette raison que les juifs, parce que les juifs du Juda, du nord, ils sont vraiment du pur sang juif. C'est pour cela qu'ils détestent les Samaritains. Vous soumettez sur la parabole sur le bon Samaritain. À la fin, quand Jésus l'a demandé aux Pharisiens, qui est ton prochain, ils n'ont pas dit Samaritain, c'est celui qui est, ils n'ont même pas annoncer le nom. Voilà. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc, du coup, là, le Seigneur lui parle de quelque chose. Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. La femme, elle est encore restée dans le besoin matériel de l'eau, H2O. Et le Seigneur est en train de lui donner un enseignement spirituel, ses besoins spirituels. C'est pour ça, il a choisi de rencontrer cette femme pour lui apprendre, révéler qui il est et ce qu'il a dit. Si tu savais qui je suis, et là, il a parlé de l'eau vive. Mais en fait, tous les Juifs, ils savent ce que ça veut dire l'eau vive. Ça représente vraiment, ça vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans Jérémie, Dieu a dit dans un verset, les Juifs ont commis des doubles fautes. Ils ont abandonné la source d'eau vive, qui est Dieu. Ils ont creusé des citernes crevassées et qui ne remplissent pas d'eau. Les citernes crevassées, c'est eux-mêmes qui ne retiennent pas d'eau. Voilà, ici, donc, alors la femme, elle comprend pas. Elle est un peu comme Nicodème. Vous vous souvenez un peu dans le chapitre 3, qui est venu demander des choses à Jésus, et Jésus lui parle quelque chose spirituel, et elle ne comprend pas. Donc là, le Seigneur continue à lui dire, alors elle a dit, elle répond, « Maître, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où tire-t-il donc ton eau vive? Tu vas pas prétendre que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » Voilà, elle reste toujours sur les choses matérielles, l'eau, boire. Mais Jésus lui parle un autre besoin, le besoin spirituel. C'est pour ça que là, Jésus continue encore, il répond pas à sa question. Le Seigneur est toujours souvent comme ça. On lui pose une question, il répond par autre chose. Alors, Jésus dit, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. » Donc, c'est l'eau matérielle, H2O. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intéressante qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » Oula. Vous voyez, spirituel. Hein. Donc, Jésus est en train de lui dire, c'est, tu bois cette eau-là, tu as toujours soif, mais l'eau que je te donne, bah, tu n'auras jamais soif. Et cette eau-là, ça mène jusqu'à la vie éternelle. C'est quoi ça? Là, il parle du Saint-Esprit. Donc, si on reçoit le Saint-Esprit, bah, on a la vie éternelle. Donc, là, la femme, vraiment, là, ce qui l'intéresse, n'aura plus jamais soif. Elle reste encore dans le lot physique. D'accord? C'est pour ça qu'elle dit, tout de suite, hein, Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir d'ici puiser de l'eau. Ah oui, là, elle est contente parce qu'elle n'a plus besoin d'attendre midi pour dans la chaleur pour venir puiser de l'eau puisque avec ce que Jésus lui donne, elle n'a plus soif. Donc, elle est toujours dans le besoin matériel, mais ce Seigneur lui parle qu'elle a un besoin spirituel. Peut-être que nous aussi, hein, des fois, hein, on est dans notre besoin matériel. Et le Seigneur veut nous donner des choses spirituelles que nous, on ne veut pas, puisqu'on a la Bible, le pain quotidien spirituel, chez nous, mais est-ce qu'on mange tous les jours? Voilà. Alors, donc là, le Seigneur, il lui dit, va chercher ton mari. Oula, c'est une invitation chaude qu'elle a. Bon, elle a répondu quoi? Je n'ai pas de mari. Ah, voilà. Mais le Seigneur lui dit, tu as été mariée avec 5 hommes. Et l'homme avec qui tu vis maintenant, c'est vrai, n'est pas ton mari. Vous êtes en compagnonnage ou parcé, on ne sait rien, mais pas marié. Donc, tu as dit vrai. Et c'est vrai, elle a dit la vérité. Mais alors, vous avez compris pourquoi elle est venue à midi pour puiser de l'eau? Elle a une vie vraiment déréglée. Bon, c'est aussi dans le contexte de l'époque, hein, à l'époque. Mais maintenant, une femme qui a eu cinq maris, qui s'est mariée, c'est rien ça, n'est-ce pas? Tout le monde accepte, c'est normal maintenant. Mais bon, on revient ici. Elle-même, je pense, elle a honte de elle-même, et puis voilà, elle est un peu aussi se sent coupable, mais elle n'arrive pas à sortir de ça. Et là, oula, c'est quelque chose, Jésus a touché à son écharpe qu'elle veut pas, elle veut pas. Donc vous voyez, pour éviter, elle a posé une autre question complètement à part, hein? Elle a trouvé là, mais je pense que c'est une question qui la trotte aussi depuis longtemps. Donc là, par cette phrase, oui, tu as dit vrai, tu as été marié avec 5 hommes, et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas son mari. Ça veut dire que le Seigneur connaît bien sa vie. Donc ça l'a vraiment, là, elle commence à comprendre un peu qui est Jésus maintenant. C'est pour ça, dans sa question suivante, elle a dit, alors, tu as raison, elle dit, non, pardon, c'est... Alors, elle dit, maître, je le vois, tu es un prophète. Ben oui, parce que comme les saints ont quand même appris à adorer Dieu, à rendre un culte à Dieu, donc elle sait quand même ce que c'est un prophète. Donc un prophète, c'est un homme de Dieu qui connaît beaucoup de choses. Donc pour elle, Jésus n'est plus un homme juif standard, mais un prophète. Ensuite, alors là, elle a posé une question très importante, aussi bien pour vous et moi. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Alors, la montagne dont elle parle, c'est le mont Garizim. C'est la montagne sur laquelle Moïse a prononcé les bénédictions de Dieu. Quand ça, c'est dans Deutéronome, ouais. Donc, c'est avant de rentrer dans le pays promis. Dieu a demandé à Moïse de proclamer les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ebal. Donc là, c'est le mont Garizim. dans les Samaritains, puisqu'ils ne sont pas autorisés à Jérusalem pour adorer Dieu. Enfin, ils ont construit un temple sur le mont Gerizim. Du coup, ils adorent Dieu sur le mont Gerizim. Mais les Juifs disent non, pour adorer Dieu, le seul endroit, c'est à Jérusalem. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les Juifs ont raison, puisque Dieu a dit, vous devrez aller à l'endroit que j'ai choisi pour m'adorer. Là, c'est à l'époque. Alors maintenant, le Seigneur donne un enseignement sur ce que c'est la véritable adoration. Alors maintenant, verset 21. « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. » Oui, ici, Jésus leur dit que vous, les Samaritains, vous adorez Dieu et vous connaissez pas bien Dieu. Il dit, nous, nous connaissons bien. Parce que Dieu a donné au peuple juif les Pentateuques dont ils ont tous les enseignements à connaître Dieu. Mais est-ce qu'ils vont apprendre à connaître? Ça, c'est autre problème. Mais les Juifs, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont vraiment tout le livre, les Écritures. Donc, ils sont censés de connaître Dieu, ils connaissent Dieu. Mais les Samaritains, ils n'ont pas eu le don de livre, donc ils connaissent pas bien Dieu. Alors ici, le Seigneur dit « l'heure vient ». Il a répété deux fois. Vous enfermez, vous autres, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, c'est vraiment ça, je trouve que c'est le verset le plus important de ce chapitre. Dieu, le Père, il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Jésus lui dit ça. Alors, la femme dit, elle commence à saisir que maman, le Seigneur lui parle de quelque chose de spirituel. C'est pour ça qu'elle commence à dire, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » Bon, elle a passé du besoin matériel au spirituel. Alors, Jésus lui répond, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » C'est fort, hein? Je me demande comment son cœur doit, je sais pas, à combien, là, battre à 200 ou j'en sais rien, mais elle doit être vraiment, voilà. Le Seigneur lui dit, moi-même, là, je pense que là, elle a refait tout dans sa tête, elle commence à comprendre pourquoi Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai à boire, tu n'auras plus jamais soif, et que ça mène jusqu'à la vie éternelle. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas un hasard. Pendant le temps de rencontre, de conversation entre Jésus et cette femme, ils étaient que deux. Et quand ils ont fini leur conversation, les disciples sont revenus. Donc, vraiment, le planning, le timing de Dieu, c'est parfait. Si les disciples sont là, il n'y aura pas de conversation aussi intime. Sur ces entrefaites, les disciples ont rentré. Et puis, alors, la femme, qu'est-ce qu'on nous... Jean nous dit, verset 28, « Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville. » Et là, voilà, qui se mit à crier, à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ? Vous vous rendez compte? Elle n'a plus honte. La vie déréglée, elle a envie de cacher tout ça, venir à plein midi. Et là, c'est elle qui va Je pense qu'à cette heure-ci, il doit être 2 heures ou 1 heure. Les gens, nous, on était au Sénégal, les gens faisaient la sieste. Elle doit aller réveiller tous les gens, n'importe. Mais venez, venez, écoutez. Vous voyez, ça, vraiment, elle a... Parce que cette femme-là, c'est... Elle est vraiment d'un pécheur, d'une femme avec une vie dépravée. Sa rencontre avec le Seigneur, ça l'a transformée. Elle est devenue un vrai adorateur. Elle est sortie de sa honte, de sa culpabilité. Ici, c'est pas dit, mais elle a compris que Jésus lui dit, tu es pécheur, mais je te pardonne. Jésus a demandé de croire en Jésus, croire à ce qu'il dit, à sa parole. Donc, elle a cru. Donc, Jésus, elle a vraiment compris. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, tu as une vie dépravée, mais si tu crois en moi, tu te repends, je te pardonne et tu peux recommencer ta vie, bien être vraiment enfant de Dieu. Et là, elle a vraiment senti, elle a reçu donc un pécheur qui a honte et tout, elle est devenue un vrai adorateur en plus. Elle est devenue un évangéliste. Elle est allée dire à ses compatriotes, viens, viens, viens voir Jésus. Ça me fait penser à un psaume qui dit, venez goûter le Seigneur est bon. C'est ce que nous faisons. Nous, on a goûté que le Seigneur est bon. On a chanté tout à l'heure. Donc, pourquoi on sort évangéliser? C'est pour dire aux autres, venez goûter. Voilà, c'est cette femme, elle est vraiment... Et maintenant, je vais partager avec vous un peu ce que c'est la vraie adoration. Donc, adorer en vérité et en esprit. Adorer en vérité, ça veut dire, premièrement, adorer avec un cœur sincère. Tel que nous sommes. Pas besoin de faire du cinéma, jouer du comédie devant le Seigneur. Parce que dans la Bible, on nous dit déjà, dans Hébreux 4, 12, que Dieu connaît les pensées et la disposition de nos cœurs. Dans Jérémie 9 aussi, il dit que Dieu sonde des cœurs, des reins. Donc Dieu connaît tout ce que nous avons dans le cœur. Donc c'est pas la peine de vraiment, il faut venir à un cœur sincère. Deuxièmement, c'est adorer conformément à l'enseignement de la Bible. Donc cela revient à que nous devons connaître la Bible. Alors l'enseignement de la Bible, ça veut dire que c'est toujours par Jésus-Christ. Il y a 2 versets. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Éphésiens 3, 12. Jean 14, c'est un erreur de frappe. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, adorer Dieu, prier Dieu, on passait toujours par Jésus. Pas par Marie ou des autres saints ou d'autres personnes. Donc là, Paul, vraiment, il nous dit, c'est par notre foi en Jésus que nous pouvons approcher de Dieu. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'autres. Le seul médiateur entre Dieu le Père et nous, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ensuite, voilà, après. Adorer en esprit. Jésus, il a dit que Dieu est esprit. Donc, le Dieu est esprit, c'est en majuscule. Donc, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu. Et nous, notre esprit, c'est notre vie spirituelle qui est de passer de la mort à la vie par notre foi en Jésus. Dieu nous a donné son Esprit Saint qui ressuscite notre esprit. Donc, nous devons adorer Dieu avec cet esprit que Dieu nous a ressuscité. Moi, je traduis par l'état d'esprit de l'adorateur, comme on a chanté tout à l'heure, avec un cœur reconnaissant, je pense d'abord repentant, reconnaissant, obéissant. Là, j'ai trouvé pas mal dans les psaumes des exemples pour voir avec vous. Donc, j'ai trouvé, vous voyez, c'est les bergers qui sont allés adorer Jésus quand les anges leur ont annoncé que le bébé Jésus est né. Vous voyez, ils sont en adoration, vraiment s'agenouiller et tout ça. Ensuite, C'est les mages aussi. Ils ont fait, je sais pas combien de, ça doit être plus que 1000 kilomètres pour venir avec vraiment des cadeaux dignes d'un roi. Voilà, devant ce bébé. Déjà, quand Jésus était bébé, déjà, vous voyez, c'est pas les prêtres juifs, c'est pas les pharisiens, ni les chefs, ni le roi Hérode qui sont venus, hein. C'est les païens. Les premiers à adorer, ce sont les bergers. La couche la plus méprisée de la société et les rois et les mages, la couche la plus respectée des païens. Vous voyez, Dieu veut vraiment qu'on l'adore, comme ça, avec un cœur sincère. Alors, l'état d'esprit de l'adorateur, dans le psaume 33, 8, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est sûr que Paul nous dit on peut rapprocher de Dieu avec confiance, mais il faut pas prendre Dieu comme ton copain quoi. Dieu n'est pas un copain. Même Jésus dit tu es mon ami, je suis ton ami, mais c'est pas un pote comme Samuel et David. Dieu est notre ami, mais quand même une amie que nous devons avoir de la crainte. Cette crainte là, c'est pas une crainte. Peur que Dieu va nous punir, Dieu va nous tout ça, mais c'est une crainte de sa sainteté, de sa majesté, de sa vraiment une crainte avec respect quoi. Alors le psaume 63:1, c'est avoir soif de Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure comme une biche à courant d'eau. Merci Michael, je pense que ce Saint-Esprit nous a t'a choisi sans savoir ce que j'ai prêché, mais merci Seigneur. Voilà. Et le psaume, ah ouais, ça c'est important, le psaume 46:11. Alors, Samuel, tu as trouvé, tu lis, qui c'est qui a trouvé? 46:11. Oui. Donc vraiment, Dieu nous demande d'arrêter, parce que dans notre société actuelle, on court. Hein. Ouais, j'ai ci, j'ai rendez-vous, j'ai là, tout ça. On n'arrête pas de courir, n'est-ce pas? Donc Dieu nous demande de vraiment s'arrêter, hein. Garder silence devant lui. Le silence c'est important, hein, pour que nous puissions écouter sa voix. Vous vous souvenez un peu, Élie, Dieu ne lui a pas parlé dans les violentes tempêtes ni rien, mais avec une petite voix. Donc, c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Hein. Moi, j'avoue que, pareil, j'ai du mal à... J'essaie, cette année, de vraiment faire... mettre en pratique le psaume 46, verset 11. Ensuite, se confesser devant Dieu. Et le psaume 103, j'aime beaucoup. Je vais vous le dire. Vous connaissez ou pas? Psaume 103. On peut le dire ensemble, ce verset. Je vous invite de lire ensemble, Psaume 103, versets 1 à 2. Même jusqu'au 5. 2 à 4, on y va? Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce que mange je suis. L'Éternel, mon âme, soit bienfait. Celui qui pardonne tous nos péchés, celui qui guérit toutes les maladies, celui qui couronne de la bonté. Oui, vas-y, c'est celui-là aussi.
C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui se fera
jeunir. Oui, voilà, c'est vraiment c'est reconnaissant et savoir que Dieu est... Puis le psaume 145, c'est pareil, c'est louer Dieu et sa grandeur. Voilà. Alors, en dehors la vraie adoration, il y a la fausse adoration que Satan tente toujours de nous donner. Première chose, c'est adoration religieuse. Si qu'on le fait automatique comme ça, c'est parce qu'il faut le faire. On fait. Je pense parfois quand on remercie devant le repas, je pense que souvent on le fait. Moi, parfois machinalement, quoi, sans voilà. Et ou bien non conforme à l'enseignement de la Bible, ben, comme certaines personnes qui prient pas par Jésus mais par d'autres personnes. Et puis il y a les catholiques aux Philippines. Tous les ans, ils font un défilé et ils se tapent, ils se crouent, ils se blessent eux-mêmes, tout ça. Donc, c'est pas ça qui est pareil. On n'a plus besoin d'aller à Lourdes ou à Jérusalem ou je sais où pour adorer Dieu. Jésus, il a dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries Dieu. Voilà, parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu est partout. N'importe où qu'on le prie, Dieu est là, quoi. Il n'y a plus besoin de faire les... Il y a les personnes qui vont jusqu'à Lourdes ou sinon à d'autres apparitions de la Vierge Marie, je ne sais plus où encore. Donc ça, c'est pas ça, quoi. Et ou adoration qui détrône le Seigneur, qui n'a pas mis le Seigneur en première place. Ça veut dire, exemple, les chanteurs... Ils chantent, et ils se croient, c'est eux que les autres adorent, et voilà, ils détrônent de Jésus, c'est eux que l'assemblée l'adore. Mais merci Seigneur, sincèrement, ce n'est pas ainsi. Mais par contre, c'est vrai, Anne-Marie m'a soulevé, bon, elle n'est pas là, mais quelque chose, je pense que c'est aussi un peu détrôner le Seigneur. Le culte qu'on a fait, on a rendu au Seigneur dimanche dernier, avec le week-end d'évangélisation. Je demande vraiment pardon au Seigneur parce que Anne-Marie a soulevé certaines choses. Elle trouve que il n'y a pas eu de prière, comme on l'a fait aujourd'hui, prière libre vers le Seigneur. Et ensuite, la prédication est très courte, de 20 minutes. Du coup, je lui ai dit que, parce que on pense que dans l'assemblée, il y a des non-chrétiens, donc ils vont pas durer tout ça. Mais Anne-Marie m'a dit qu'on invite des autres à venir à notre église, on doit rendre grâce à notre Dieu. Donc c'est Jésus qui va être la première place. Donc je me rends compte, c'est vrai, ce qu'on fait là, c'était pas conforme. Le Seigneur n'est pas en première place. Parce que d'habitude, on doit, même si on a les non-chrétiens dans notre assemblée, on ne doit pas changer la forme et la, voilà, pour le culte. Et là, je remercie le Seigneur que Anne-Marie a soulevé cela. Donc, voilà, ça, c'est, et ça tombe vraiment bien que c'est moi qui dois prêcher la vraie adoration. Donc, je pense que ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était pas très conforme. Moi-même, je le trouve, hein. Parce que c'est, Anne-Marie a dit que déjà, nous ne prions pas assez. Je ne vise personne. Simplement, à Saint-Maur, nous ne prions pas assez. À la réunion de prière, ça compte même pas sur mes mains. Donc, dans le fait d'avoir un moment de prière, c'est bien, quoi, pendant l'assemblée. Et vraiment, j'invite les frères et sœurs qui n'ont jamais parlé encore dans l'assemblée d'ouvrir la bouche pour parler. N'ayez pas peur, c'est au Seigneur que vous parlez, c'est pas à nous tous. Et ça rentre à gloire au Seigneur et ça lui fait plaisir. Voilà, ça c'est que vous partagez pour la conclusion. Je suis très reconnaissant à l'apôtre Jean qui a vraiment noté cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, qui nous a donné vraiment comme quoi le Seigneur est toujours venu chercher les pécheurs. Dans les évangiles, il a toujours dit, je suis venu chercher les pécheurs. Donc, il est venu à Sichar chercher cette femme samaritaine. Donc, elle, en tant que pécheur, a sa rencontre en Seigneur, elle a placé sa foi en Jésus, elle a accepté son pardon, elle est passée de pécheur en vrai adorateur, ensuite évangéliste, missionnaire. Et nous, c'est ce que le Seigneur nous fait aussi. Nous étions pécheurs avec notre foi en Jésus, nous sommes devenus les vrais adorateurs et après missionnaires. Donc c'est vraiment l'enseignement que le Seigneur a donné à la Samaritaine. C'est vraiment, c'est super quoi. Je vous prie de prier. Merci Père de nous avoir laissé cet enseignement, Seigneur. Oui, Seigneur, l'heure est venue que ton Fils, il a donné sa vie, il est ressuscité, il est monté assis à ta droite, recevoir toute la gloire qui revient. Et voilà, maintenant nous pouvons te prier, t'adorer n'importe quel, à tous les endroits, Seigneur, seulement en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.